Yannick Petit avec vous pour vous souhaiter la bienvenue sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre. C'est mercredi et c'est un rendez-vous désormais bien ancré sur les ondes de votre radio locale depuis 2010. Ce soir, nous allons découvrir le parcours absolument captivant d'une artiste peintre née en 1883, disparue en 1937. Elle s'appelle Hélène Guinepied et elle a un lien très étroit avec le département de l'Yonne, où elle a résidé, notamment au château de Saint-Mauré, petit village que vous connaissez sans doute, hein, au nord-est d'Avallon, où elle a séjourné et où elle repose d'ailleurs au cimetière. Mais cette femme libre au parcours exceptionnel est une grande artiste qui a incontestablement donné naissance à la vocation de Gaston Chessac. On en reparlera bien sûr ce soir, mais elle a aussi, cette Hélène Guinepied, créé des ateliers villageois où de jeunes paysannes ou filles du peuple pouvaient s'épanouir socialement et surtout artistiquement. Hélène Guinepied a mis à jour une nouvelle pédagogie du dessin avec ce qu'on appelle la méthode du dessin libre. On revient sur tout cela ce soir avec notre invitée que j'accueille et qui est Sophie Mouchet. Sophie Mouchet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je rappelle aussi que l'émission que vous entendez ce soir a été enregistrée en public à la librairie L'Autre Monde à Avallon. Nous saluons d'ailleurs toute l'équipe de la librairie et plus spécialement Carole Amicel et Evelyne Levallois. Evelyne Levallois, notre fidèle libraire qui est bien sûr à nos côtés. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
Et vous pouvez l'applaudir, oui. Evelyne Levallois qu'on retrouve en fin d'émission puisqu'elle nous offrira son traditionnel coup de cœur tant attendu. C'est en fin d'émission, on en reparle aussi bien sûr plus tard. Alors le livre de notre invitée Sophie Mouchet s'intitule Hélène Guinepied, 1883-1937, artiste peintre, artisane et pédagogue. Sophie Mouchet, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter un peu.
Je suis donc j'ai
Ah, vous n'êtes pas obligé de dire votre âge.
Non, mais je sais pas. Mais
présentez-vous un peu, d'où venez-vous, quelles sont vos passions, pourquoi cette approche d'Hélène Guinepied, j'imagine l'amour de l'art, quelle est votre profession?
Alors moi je ne suis pas originaire de Bourgogne, je suis originaire de Normandie. Donc je suis arrivée dans Lyon en 1999 et c'est en Puisaye que j'ai croisé le chemin d'Hélène Guinepied par hasard quand je suis arrivée dans le département. Je me suis toujours beaucoup intéressée à l'art puisque du côté maternel comme paternel, nous avons des connexions assez fortes avec l'art étant donné que mon grand-père maternel était au Bauhaus, un mouvement artistique en Allemagne fondé en 1919. Et mon grand-père paternel s'est occupé et travaillait à la compagnie transatlantique, la Générale Transatlantique, et s'est occupé de la décoration des bateaux et des commandes pour tout ce qui était verrerie, cristallerie, œuvre d'art pour le paquebot Normandie. Donc, j'ai toujours baigné dans cet univers-là, j'y ai toujours été sensible. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert Hélène Guinepied, je me suis tout de suite dit qu'il y avait une ficelle à tirer, quelque chose d'assez exceptionnel à découvrir.
Merci Sophie Mouchet pour ces précisions biographiques. Alors si vous êtes originaire de Normandie, les Guinepied, eux, cette famille Guinepied est vraiment attachée au département de l'Yonne.
Oui, tout à fait. Le père d'Hélène Guinepied était originaire de l'Yonne, sa mère de la Nièvre. C'est la raison pour laquelle Hélène Guinepied est née dans la Nièvre.
Alors Hélène Guinepied, elle est née le 27 avril 1883 à Brinon-les-Allemands, donc dans le département de la Nièvre. C'est le troisième enfant donc de Berthe Ferrier et de Léon Guinepied. Alors il faut dire aussi que dans la famille Guinepied, il y a des originaux.
Alors effectivement, notamment l'oncle d'Hélène Guinepied, qui vivait un peu comme qui se prénommait lui-même l'homme des bois, et qui vivait de chasse et de pêche, un peu comme un ermite. Il avait pour meilleur ami le père Leleu, qui vivait dans sa grotte, et ils partaient tous les deux faire des équipées pour attraper les vipères, chasser les bêtes à poil, comme il le disait lui-même. Et il avait un aspect un petit peu singulier, il avait une grande barbe, il avait un visage avec des yeux assez perçants. Et c'est vrai que c'était un personnage assez à part, effectivement.
Donc c'est le tonton et le parrain d'Hélène, hein, Louis Guinepied. Oui, oui. Et puis le père même d'Hélène Guinepied, qui finalement était clerc de notaire, oui, a très vite renoncé à ce métier, se sentant plutôt... J'allais dire étouffé un peu par cette profession un peu trop bourgeoise. Il avait besoin d'un peu de fantaisie.
Alors, en fait, c'est vrai que le profil du père d'Hélène Guinepied est assez particulier. On n'a pas encore pu très bien comprendre quelles avaient été ses motivations. Toujours est-il que c'est un homme d'origine sociale très modeste qui a réussi par son intelligence et son travail à accéder à la profession de clerc de notaire, profession dont il n'aurait jamais pu rêver en raison de ses origines. Et donc il se forme, il devient clerc de notaire puis notaire. Il exerce cette profession pendant une dizaine d'années. Et on ne sait pas très bien pourquoi, au bout de 10 ans, il abandonne sa charge et la revend. Donc là, on n'a pas pu découvrir pour quelles raisons. Et on le retrouve agriculteur pendant quelques années, travaillant sur le domaine de ses beaux-parents. Des parents de son épouse. Qui est une famille plus aisée. Voilà, les parents d'Hélène Guinepied ne sont pas du même milieu social. La mère d'Hélène Guinepied est d'un milieu social plus élevé que celui de son mari. Et donc, il est probable que ses beaux-parents lui aient fourni un emploi ou une situation. Et il est agriculteur pendant quelques années. Et là, à nouveau, il change de métier. Et on le retrouve à Paris, secrétaire des chambres syndicales. Alors, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, ni ce qu'il y fait exactement. Donc, il exerce ce métier pendant quelques années et meurt prématurément d'une pneumonie.
Alors, justement, la disparition du père met cette famille dans une situation un petit peu délicate. Et c'est là aussi, vraisemblablement, que Hélène Guinepied, la petite Hélène, se rend compte qu'une femme doit être indépendante financièrement. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle acquiert sa liberté et son indépendance.
Oui, probablement parce que déjà avant le décès de son père, leur situation financière était relativement précaire, puisqu'il semble qu'il n'ait jamais vraiment réussi à gagner suffisamment bien sa vie pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Les Guinepied n'avaient, selon toute vraisemblance, pas de grands moyens. Et ont toujours été un peu dans le besoin, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Et je pense que très jeune, elle a été marquée par peut-être ce sentiment d'insécurité matérielle. Et effectivement, à la mort de son père, elle s'est dit, là, il faut que je me prenne en charge en tant que femme. Si je dépends d'un homme, en fait, je risque de manquer. C'est possible.
En ce qui concerne son instruction, Hélène Guinepied va être placée en institution religieuse à Nevers, c'est bien cela. Alors que son frère Paul, bon, on mise toujours un peu sur le garçon, Paul, le frère, lui, va faire des études de pharmacie.
Voilà, tout à fait. Alors en fait, les trois sœurs, puisqu'Hélène Guinepied avait deux sœurs, les trois filles vont être mises en pension à Nevers, chez les Ursulines, alors que les parents quittent la Nièvre pour s'installer à Paris avec le frère d'Hélène, Paul. Il est probable qu'ils n'aient pas eu les moyens de se loger dans un appartement suffisamment grand pour pouvoir emmener leurs filles avec eux. Et évidemment, le choix est fait de privilégier l'éducation de leur fils, puisqu'à l'époque, naturellement, de toute façon, les filles ne peuvent pas passer le bac et elles ne sont pas destinées à faire des études. Donc,
Ce qui est surprenant aussi, alors j'ai pensé à George Sand, c'est que Hélène Guinepied, très jeune, fume la pipe.
Oui.
Ce qui est surprenant quand même.
C'est très surprenant.
C'est une façon d'affirmer une véritable identité, de revendiquer déjà quelque chose. Contestation d'un ordre établi.
Oui, tout à fait. C'est une façon de se singulariser et c'est un message envoyé clairement destiné à dire qu'elle n'est pas comme les autres et qu'elle ne fera pas ce qu'on attend d'elle. En tout cas, pas comme on l'espère.
Enfin, ceci n'est pas une pipe, aurait peint Magritte. Nous, on va vraiment marquer une première pause musicale. On retrouve notre invitée Sophie Mouchet pour poursuivre l'évocation du parcours de l'artiste Hélène Guinepied, si vous venez de nous rejoindre sur le 90.5 en modulation de fréquence ou Sophie Mouchet par internet sur le www.radion.fr, sachez que vous écoutez l'émission littéraire de votre radio locale et c'est avec plaisir que nous vous accueillons. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Tout de suite, on écoute Elisa Tovati avec un titre qui est « Il nous faut ». Eh bien, il nous faut de l'art, un peu d'émotion ce soir. Et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit.
I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care? Is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we're there, we will succeed.
Aussi un jean usé que l'on partage, deux trois secrets d'enfant passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien autour, non rien.
You and I, close together, a new dimension, still far from being complete. You and I, close together, nous manque si peu de choses.
Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Nous serons ce que l'on ose.
You and I, close together, new dimension. But if we're there, we will succeed. C'est tellement déjà.
Votre rendez-vous culturel du mercredi sur l'antenne de Radio ne revient avec notre invitée Sophie Mouchet pour son livre consacré au peintre, à l'artisane. Le féminin ne me plaît pas trop, mais on peut comprendre que vous ayez féminisé artisane parce que c'est une féministe, vous la présentez féministe sans militantisme, on y reviendra, et pédagogue, donc Hélène Guinepied, une artiste en tout cas sans pareil, un peu trop rapidement oubliée et aujourd'hui peut-être même méconnue, Sophie Mouchet.
Ah oui, même vous pouvez le dire, elle était jusqu'à il y a peu de temps totalement inconnue. Elle a complètement disparu de la mémoire de tous. Je voulais juste revenir sur ce que nous avons dit précédemment. Le terme d'artisane n'est pas de mon cru. Je suis d'accord avec vous, je ne le trouve pas forcément très heureux, mais j'ai repris ce terme dans les journaux de l'époque qui ont publié des articles sur elle et qui l'ont qualifiée d'artisane. Donc,
la vérité voilà. Est rétablie. Et...
Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que ça va très bien.
Ah. Ne lançons pas le débat sur la féminisation des noms dans notre langue française. Revenons en tout cas à Hélène Guinepied. Sophie Mouchet, quelle est la formation d'Hélène Guinepied? Certes, bien sûr, chez les sœurs à Nevers, elle se met au dessin, elle fume la pipe et surtout elle va prendre quelques cours quand même.
Alors, elle a dû se rendre compte de façon assez précoce qu'elle avait du goût pour le dessin, même plus de goût qu'elle en avait besoin, que c'était vraiment chez elle une véritable passion, je pense qu'on peut le dire, et qu'elle avait en plus du talent. Mais je crois que ce qui est assez remarquable chez elle, c'est qu'elle prend conscience aussi assez rapidement que le talent ne suffit pas et que si elle ne travaille pas, finalement, elle n'arrivera pas à grand-chose. Et donc, dès les années 1906-1907, elle bénéficie de cours gratuits de dessin dont elle bénéficie grâce à la SEMDIA, qui est une société philanthropique créée par Léopold Bellan et qui propose tout type d'enseignement dans de multiples domaines à des jeunes femmes, des jeunes filles ou de jeunes adultes qui n'ont pas les moyens de financer des études. Donc elle va pendant 3 ou 4 ans prendre ses cours grâce à Léopold Bellan. Donc ces cours sont dispensés par de vrais professeurs de Beaux-Arts qui donnent du temps bénévolement le soir pour former ses élèves.
Mais au début, finalement, Hélène Guinepié, les premières œuvres d'Hélène Guinepié sont des portraits.
Alors au début...
On est loin de... des représentations de la nature ou des poissons qu'elle aime tant dans les années 1920.
Oui, on en est très très loin parce que d'abord au début, elle reçoit un enseignement classique, hein, elle fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'on lui apprend à dessiner, l'apprentissage du dessin passe par le portrait, ce qui va aussi lui être enseigné à l'école des Beaux-Arts. Où elle rentre en 1909. Et là, effectivement, l'apprentissage qu'on lui dispense, c'est un apprentissage classique avec des règles très, très établies, très cadrées. Donc, elle apprend, elle est bonne élève, elle travaille, elle fait ce qu'on lui demande.
Ce qui est important de noter, c'est que, bien sûr, c'est le parcours d'une artiste, mais il faut aussi bien noter que Hélène Guinepié veut devenir artiste à une époque où les femmes n'ont pas facilement accès aux carrières artistiques. Alors vous établissez des parallèles, vous parlez de Berthe Morisot, mais Berthe Morisot, elle meurt alors qu'Hélène a 12 ans en 1895. Hélène Guinepié est très soutenue par sa mère, mais on peut dire que le monde de l'art est un monde très viril, académique, bourgeois, qui finalement n'est pas prêt à accueillir les femmes. C'est aussi quand même d'une grande audace. Alors aujourd'hui, ça peut paraître ordinaire, mais en son temps, Hélène Guinepié a aussi dû affronter les barbichus.
Oui, tout à fait.
Alors, ou les barbus.
Non, c'est vrai que je pense qu'elle a eu la chance d'être effectivement soutenue par sa mère, parce que peut-être que sinon elle en aurait été dissuadée. Je crois qu'en fait, il y a eu à la mort de son père, la belle famille de sa mère, c'est un peu, il y a eu des querelles familiales. Je pense qu'on lui a fait le procès d'avoir fait une mésalliance en épousant Léon Guinepié. Et je crois que sa mère, en fait, a eu besoin de s'opposer à sa famille. Il y avait un parfum un peu de revanche familiale. Et quand elle a vu que sa fille avait des dispositions artistiques, elle s'est dit, allons, poussons-la dans cette voie. C'était une façon aussi de rendre hommage à son grand-oncle, Jules Montaignier, qui était peintre également, hein, qui était peintre, un peintre nivernais. Et elle s'est dit, ma fille a peut-être hérité de ce talent, et moi je vais la pousser dans cette voie, et n'en déplaise à ma belle famille, et on verra bien ce qui en sortira. Mais c'est vrai qu'à l'époque, être artiste, c'était pas du tout...
Et de vivre de son art.
Ah,
c'est
oui,
ça c'est... qu'il faut bien comprendre. C'est pratiquer la peinture, mais pour en vivre, hein, et pas comme un passe-temps.
Voilà, alors ça, c'est vrai que ça pouvait paraître complètement exotique à l'époque, et peut-être même un peu inconvenant. Il est vrai qu'Hélène Guinepié a probablement eu l'intention d'en vivre dès le départ. Ouais, puisque dès 1911, elle donne des leçons particulières pour essayer de gagner un peu d'argent. Enfin, elle a toujours essayé d'être indépendante et elle s'était dit, je vais peut-être envisager ça comme carrière. Mais c'est vrai que c'était très audacieux.
Alors, toujours très attentive et vigilante, Evelyne Levallois, notre amie libraire, a une question à vous poser.
En parlant d'inconvenance, vous dites quand même dans votre livre qu'un des handicaps d'Hélène Guinepié pour faire carrière... c'est que, pour le dire un peu crûment, elle n'abuse pas de ses charmes. Mmh. Alors que les femmes, début XXe siècle, si on voulait accéder à la carrière, il fallait faire plaisir à certains messieurs.
Mmh. Voilà. Alors effectivement, quand on regarde la biographie de toutes les femmes artistes qui lui sont contemporaines, à plus ou moins 10 ans avant sa naissance et 10 ans après sa mort, dans absolument tous les cas, ces femmes sont arrivées à la notoriété, à la reconnaissance de leur art grâce à leur mari, leur amant ou leur frère, ou un homme en tout cas qui les avait pris sous leur aile et qui les ont introduites dans les milieux intellectuels et artistiques. Or, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a aucune trace pour Hélène Guinpied de la moindre relation sentimentale, que ce soit avec un homme ou une femme d'ailleurs, hein, mais apparemment elle est restée seule et célibataire. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles elle n'a jamais réussi à s'introduire dans le milieu artistique parisien, parce qu'elle vivait beaucoup à Paris, ni à rencontrer les, entre guillemets, bonnes personnes. Et c'était aussi peut-être une question de tempérament, puisque c'était une femme qui n'était pas une femme de salon. Mais effectivement, le fait qu'elle soit restée seule et célibataire est très probablement l'explication à son... de l'oubli dans lequel elle est tombée.
Et encore, elle aurait pu être encore plus oubliée si en 1908, elle connaît, il y a un épisode dépressif, en 1908, où là, sa famille ne l'internera pas, contrairement par exemple à la célèbre Camille Claudel. Là, quand même, Hélène Guinpied a frôlé l'internement psychiatrique.
Oui, tout à fait. Alors, heureusement, un de ses oncles était médecin. Elle a été vue en consultation à Paris par le docteur Babinski, qui était un éminent neurologue, et lui a conseillé l'internement. Mais comme elle n'était pas dangereuse pour son entourage ni pour elle-même, la famille s'est opposée à cet internement. Et c'est heureux parce qu'effectivement, si elle avait été internée, compte tenu des conditions qui étaient celles des internés dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque, il est fort probable qu'elle n'en serait jamais sortie.
J'espère, auditrices et auditeurs, que vous découvrez avec intérêt et curiosité, comme le public ici présent à la librairie L'Autre Monde, oui, qui est toujours bien présent. Oui. Merci à vous. J'espère en tout cas que vous découvrez la vie et l'œuvre de Hélène Guinpied grâce aux explications de notre invitée Sophie Moucher. On s'approprie progressivement le parcours artistique de celle qu'il faut considérer comme une des pionnières de la peinture du début du XXe siècle. Nous lui rendons hommage ce soir en mettant en avant donc le livre de notre invitée, ouvrage illustré, et qui a pour titre « Hélène Guinpied, 1883-1937 ». Artiste peintre, artisane et pédagogue. On vous laisse en musique, c'est toujours sur Radion, et on écoute les Forever Gentlemen qui nous interprètent Fly Me to the Moon, et on se retrouve avec Sophie Moucher d'ici quelques minutes.
Let me swing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
the door. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Si vous avez manqué le début de notre émission, rendez-vous sur internet d'un clic, Sophie Mouchet, vous retrouverez l'émission en podcast d'ici donc quelques jours. C'est un wagon livre enregistré en public à la librairie L'Autre Monde le 18 avril dernier et consacré à une artiste injustement oubliée, Hélène Guinpié, prématurément disparue en 1937 et enterrée dans Lyon, il faut le préciser, très précisément au cimetière de Saint-Mauré. Notre invitée Sophie Mouchet est l'auteur d'une... Alors, je considère que c'est une biographie-essai, vous en êtes d'accord ?
Oui, oui, c'est
sur cet artiste-peintre, dont toute l'œuvre est un hymne à la nature, nature dont Hélène Guinpié tirera l'essence de sa propre existence. Alors, Hélène Guinpié, évidemment, ce qui est formidable aussi avec votre travail, c'est qu'on se rend compte que les femmes ont du mal... non seulement à faire leur place dans cet univers extrêmement masculin, d'une part, d'autre part, qu'il faut encore être reconnu et que participer à des salons, cela n'est pas simple. Alors, vous rappelez, bien sûr, le Salon des Indépendants, mais ça, c'est bien avant Hélène Guinpié. Mais Hélène Guinpié, alors revenons un petit peu quand même sur son œuvre. Elle est influencée par les impressionnistes et les post-impressionnistes. L'importance de la couleur, quels sont les autres éléments clés de l'œuvre picturale et des dessins d'Hélène Guinpié ?
Alors quand on regarde ses dessins, enfin celles qu'elle... parce qu'il faut bien préciser qu'en fait dans les œuvres qu'elle a créées, il y a deux périodes très distinctes. Il y a les œuvres qu'elle produit entre 1906 et 1914. Qui sont vraiment le produit de son enseignement qu'elle a reçu à l'École des Beaux-Arts, hein, parce qu'il faut bien rappeler qu'elle a été élève à l'École des Beaux-Arts de Paris entre 1909 et 1916, ce qui est assez exceptionnel pour une femme à l'époque, compte tenu de la difficulté du concours et du faible nombre de femmes qui réussissaient ce concours. Mais dans ces années-là, en fait, elle produit des œuvres, essentiellement des tableaux, donc des peintures à l'huile, qui sont directement le produit en fait, de son enseignement artistique. Des œuvres assez conventionnelles, académiques, assez influencées par la peinture classique. Et vivant à Paris, elle fréquente les expositions et assez rapidement, on voit qu'il s'opère après la guerre un tournant majeur dans son œuvre, puisqu'elle a très probablement été très frappée en rencontrant les œuvres de Van Gogh, qui pourtant a très peu exposé à Paris dans ces années-là, mais il est indéniable qu'elle a vu les œuvres de Van Gogh et celles de Paul Signac, qui était président de la Société des Indépendants à l'époque où elle y exposait, au côté duquel elle a donc exposé à Paris. Elle a été très frappée par les œuvres de Van Gogh et de Signac, qui sont les deux artistes qui ont manifestement, c'est indiscutable, influencé son œuvre.
Alors, en fait, on peut dire qu'elle n'appartient à aucun courant. Le naturalisme a vécu, elle subit plutôt les influences. Elle n'a pas créé de style particulier.
Alors, elle subit des influences, mais en fait, aucun artiste, enfin, à part quelques génies de la peinture hein, qu'on connaît, comme Picasso, comme Léonard de Vinci, ont vraiment sont des purs produits d'eux-mêmes, on peut peut-être dire ça. Après, tous les autres artistes subissent forcément une influence, mais au-delà de cette influence, il y a quand même un style personnel qui finit par émerger. Et quand on regarde les dessins d'Hélène Guinpié, puisque après-guerre, elle ne peint plus, elle abandonne la peinture pour se concentrer consacrée exclusivement au dessin, donc à la gouache et à l'encre de Chine, il n'y a rien de comparable à ce qu'elle fait. Donc il y a bien un style Hélène Guinpié.
On va revenir à Lyon et après la Première Guerre mondiale, 1916, la famille Guinpié, enfin Paul, son frère, rachète le château de Saint-Mauré et Hélène Guinpié vient y séjourner. Et alors là, elle rencontre Chessac, parce qu'elle donne en fait des cours de dessin à la petite sœur de Gaston Chessac. C'est bien cela.
Hein. Oui, oui, c'est ça. Alors, en fait, donc, son frère achète ce château en 1916 parce qu'il a fait, il a gagné beaucoup d'argent puisqu'il est pharmacien. Il a obtenu son diplôme de pharmacie et il a réussi à très bien gagner sa vie. Et pour lui, il y a un parfum de revanche sociale aussi parce que grâce à ses revenus, il achète ce château qui se trouve en plein milieu du village finalement de ses ancêtres. Et donc il peut afficher une certaine réussite. Et donc il achète le château de Saint-Mauré en 1916 pour y passer clairement comme maison de campagne en fait, hein, puisqu'il habite Paris autrement. Et Hélène Guinepied très rapidement s'attache énormément à ce lieu qui répond à ses aspirations parce qu'elle est une campagnarde avant tout, elle aime la nature. Et elle est
et
amenée...
Elle met une touche personnelle de décoration aussi.
Oui, c'est... oui, tout à fait. Alors elle peint à l'intérieur du château, elle fait des fresques et dans d'autres maisons aussi du village. Hein, on lui demande de décorer les murs des maisons. Il n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais elle aime beaucoup s'occuper du jardin. Elle aime s'occuper des... ils ont une basse-cour en face à lui.
Elle se met à la vigne.
L'apiculture, tout à fait. Oui, oui. Elle est vraiment dans son élément. Et elle rencontre effectivement... elle a aussi une âme très sociale et sociable. Elle n'oublie pas qu'elle-même a bénéficié en fait de la philanthropie de, notamment de Léopold Belland, dont on parlait tout à l'heure. Et elle veut rendre un petit peu ce qu'elle a reçu. Et elle donne des cours de dessin à la Georgette Chessac. Je crois dès 1918, il me semble, la petite sœur de Gaston Chessac. Et pendant qu'elle donne ses cours de dessin à Georgette Chessac, le petit Gaston, qui a 7 ans environ, est là, il regarde, et là, il a une sorte de révélation, et écrira de très très nombreuses reprises dans sa correspondance que c'est Hélène Guinepied qui a été à l'origine de sa vocation artistique.
Et je vous cite Sophie Mouchet, page 68, « L'influence de Hélène Guinepied dans la naissance de la vocation de Chessac ne peut être ignorée. »
Alors effectivement, jusqu'à il y a peu de temps, le nom d'Hélène Guinepied dans la vie de Gaston Chessac avait été totalement mis de côté. Alors, est-ce parce qu'elle était inconnue et donc on préférait se référer à Otto Freundlich et Jeanne Kosnick-Kloss comme étant à l'origine de sa vocation artistique ? Toujours est-il que, alors, il faut lire la correspondance de Chessac. À de très nombreuses reprises, il fait allusion à Hélène Guinepied, elle l'a beaucoup marquée. Il dit, comme je le disais, très clairement qu'elle est à l'origine de sa vocation artistique. Et en 1970, une critique d'art avait, au sujet de Gaston Chessac, mentionné très clairement aussi l'influence d'Hélène Guinepied. Malheureusement, ça n'a pas été repris depuis jusqu'à aujourd'hui, mais elle a vraiment, c'est elle qui lui a ouvert les yeux, on va dire, sur sa destinée.
Alors le temps passe très vite avec vous, Sophie Mouchet. On va marquer une nouvelle pause musicale et on va parler des ateliers villageois et puis de cette méthode de dessin libre que j'avais annoncée dans l'introduction à notre entretien. On se retrouve dans une poignée de minutes avec Sophie Mouchet. Je rappelle que l'émission a été enregistrée en public à la librairie L'Autre Monde à Avallon. Merci à vous. Vous voyez, on a un public extrêmement réactif et on vous offre Capital Cities, One Minute More. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Kind of place that could only be seen with the see in you.
Sophie Mouchet est devant notre micro pour donc Hélène Guinpied, 1883-1937, artiste, peintre, artisane et pédagogue. C'est son travail sur cet artiste trop rapidement oublié, et vous dépoussiérez l'œuvre et la vie de cette femme remarquable avec laquelle on entre très vite en sympathie. Et je tiens à dire que le livre est absolument passionnant. Vous auriez pu faire une couverture un petit peu plus joyeuse, parce que pour une artiste championne de la couleur, pourquoi avez-vous choisi la sobriété au lieu de l'éclat, de la puissance des couleurs, par modestie en fait ?
Parce que je pense que c'est ce qui lui ressemble en fait le plus. C'est cette part un peu impénétrable de sa personnalité, et ce rapport étrange et mystique quasiment qu'elle a avec la nature et avec l'eau notamment, qui est une obsession dans son œuvre, qui revient dans quasiment tous ses dessins. Il y a de l'eau.
Il faut dire qu'en 1920, Hélène Guinpied, dans un souci de justice sociale et de permettre aux jeunes filles, aux jeunes paysannes d'accéder à une forme d'épanouissement artistique et intellectuel, elle met au point ce qu'on appelle les ateliers villageois, qui est une initiative quand même exceptionnelle dans cette France des années 20, qu'on imagine quand même paysanne, conservatrice et peu encline à vouloir quand même donner une véritable indépendance aux femmes.
Alors en fait, les ateliers villageois sont nés d'un concours de circonstances, si je puis dire. Elle, depuis le début, donc elle cherche à gagner sa vie, comme on l'avait vu, hein, grâce à son art. Et donc, dans les années 20 sont les années des arts décoratifs, et elle tente elle dessine des motifs pour des broderies, des motifs décoratifs qu'elle souhaite faire broder pour pouvoir les commercialiser. Et très rapidement, elle ne peut plus, elle, suffire elle-même à la production de ces broderies, et elle demande aux jeunes filles de Saint-Mauré et des environs de broder pour elle. Et en fait, de cette manière, naît ce qu'on pourrait dire maintenant une petite PME, finalement artisanale, où elle emploie des jeunes filles du village qui créent des motifs et brodent pour elle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est en fait, c'est une initiative effectivement qui est très originale et qui ressemble beaucoup aux ateliers de Martine Poiret, qui ont été créés en 1911 par Paul Poiret, le couturier, qui fonctionnait exactement sur le même modèle. Jusqu'à maintenant, l'histoire de l'art n'a retenu, bien entendu, que les ateliers Martine comme modèle d'école de création spontanée de jeunes filles sans éducation artistique pour produire des motifs et des objets d'art décoratif. Or, les ateliers d'Hélène Guinpied fonctionnent sur le même modèle. Alors, il est très probable qu'elle ait entendu parler des ateliers Martine. Il est possible aussi que, voyant les résultats qui avaient été obtenus, se soit dit « moi, je pourrais peut-être fonctionner de cette manière-là avec mes propres ateliers ». Toujours est-il que, effectivement, cette initiative et celle des ateliers Martine sont jusqu'à présent les deux seules qu'on connaît comme école d'enseignement artistique et de diffusion commerciale, en fait, puisque...
Sait-on si elle était finalement proche des idées de la gauche de l'époque ? politiquement.
Oui. Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut être féru de justice sans être systématiquement à gauche? Je veux dire, personne n'a le monopole de la justice sociale, me semble-t-il.
Alors, toute sa famille a été très proche des idées des radicaux de l'époque. Il faut rappeler que son frère, Paul, était présent lors de l'assassinat de Jean Jaurès.
Ça, c'est formidable.
Et que c'est lui qui lui a, puisqu'il sortait du journal L'Humanité et dînait dans un restaurant le jour où Jaurès a été assassiné. Et en fait, quand Raoul Villain a tiré sur Jaurès, Paul Guinepied était assis à la table à côté. Comme il était pharmacien, il avait des notions de médecine, et c'est lui qui a tenté de le ranimer, sans y parvenir. Mais c'est vrai que la famille Guinepied est nourrie des idéaux radicaux, et Hélène Guinepied également.
Alors, parlons de cette méthode du dessin libre. C'est une nouvelle pédagogie du dessin qui va être mise au point par Hélène Guinepied. Et le point de départ, c'est quand même une enfant de 12 ans qui est morte, je crois, en 2001.
Oui, il y a peu de temps, relativement parlant.
Et cette petite fille de 12 ans qui va expérimenter, faire jaillir cette méthode, s'appelle Germaine Rameau.
Oui, alors Germaine Rameau était effectivement une des fillettes qui venait broder pour Hélène Guinepied dans ses ateliers à Saint-Mauré. Et un jour, Hélène Guinepied remarque que la petite Germaine Rameau avait elle-même produit des dessins et des motifs et d'une grande qualité. Et elle se dit, mais ce qu'a fait cet enfant est extraordinaire. Alors, est-ce qu'elle est particulièrement douée, ou est-ce que ce qu'elle a fait, tous les enfants peuvent le faire ? Et donc, pour le vérifier, elle donne à tous les autres... je dis enfants parce qu'à l'époque, on était encore enfants à 15 ans. On n'était pas encore considérés comme adolescents. On était encore... on appelait ça des enfants, encore à 14 ou 15 ans. Et donc, elle donne à toutes les jeunes filles de grands blocs de papier et des fusains et leur demande de créer des motifs. Et elle se rend compte qu'à partir du moment où on oblige l'enfant à dessiner en grand, en lui donnant de très grandes feuilles de papier et des fusains. Avec un fusain, on ne peut pas faire de petits motifs, c'est impossible. On est obligé de faire de grands dessins. Ils sont tous capables de créer des motifs extraordinaires. Et c'est de cette manière fortuite, en fait, que naît sa méthode de dessin, qu'elle va appeler la méthode de dessin libre à grande échelle, exécutée au pinceau, si on veut dire.
Et cette méthode de dessin libre va interpeller les inspecteurs de l'instruction publique de l'époque, et elle a une notoriété à ce niveau-là, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Oui, alors parce qu'en fait, donc très rapidement, elle est tout à fait prête à partager sa méthode avec tous ceux qui le lui demandent. Elle n'est pas du tout, elle ne cherche pas à garder ça pour elle. Donc elle transmet sa méthode aux instituteurs des environs qui vont l'expérimenter dans leurs propres écoles. Les inspections de l'éducation, enfin de l'enseignement public vont en entendre parler. Des concours de dessin sont organisés. Les dessins produits par ces enfants sont exposés dans les écoles de Lyon. Bientôt, sa notoriété arrive jusqu'à Paris. Elle va à Paris donner des conférences pour exposer sa méthode, et elle va également intéresser les tenants de l'éducation nouvelle. Et lors du congrès de Lausanne qui va avoir lieu, je crois, en 1921 ou 22, je me rappelle plus très bien, elle va aussi intéresser les pédagogues en Suisse, puisque les mouvements d'éducation nouvelle sont très actifs jusqu'en Suisse dans ces années-là. Donc en fait, sa méthode va rayonner bien au-delà de Lyon.
Alors, artisane, on a compris, avec les ateliers villageois, pédagogue avec cette méthode de dessin libre, et l'artiste, j'allais dire, de fin de vie, puisqu'elle meurt en 1937, elle est morte à l'âge de 54 ans, on peut dire prématurément, sans avoir vraiment connu le bonheur, et sans avoir connu peut-être une grande notoriété d'un point de vue artistique. C'est plus sa méthode d'enseignement du dessin qui est connue que ses œuvres.
Oui, effectivement. Alors, elle expose peu, finalement, à partir de la fin de la guerre. Et les œuvres qu'elle produit, en fait, tous ses dessins, elle les expose relativement peu. À D'après ce qu'on peut en juger aujourd'hui, elle ne vend pas ses œuvres. Il n'y a pas de collectionneurs, de galeries qui s'intéressent à son œuvre. Mais elle dessine énormément. Sa production, à l'heure actuelle, s'élève à plusieurs centaines de dessins. Et je suis convaincue que d'autres vont apparaître.
Où sont ces dessins, ces œuvres?
Voilà, très bonne. Merci, madame. Très bonne question. Où peut-on voir, à part le musée, donc à Varzy, à Nevers, et disséminés peut-être là où on ne sait pas.
Alors, la plupart de ces œuvres se trouvent pour le moment toujours chez des collectionneurs privés. Elles n'ont jamais été exposées, donc il est quasiment impossible, effectivement, à l'heure actuelle, de pouvoir découvrir son œuvre. Alors, sauf sur Internet, puisque maintenant, un site Internet lui est consacré.
Mais émane-t-il de vous le site Internet ? Oui. Alors, il faut dire qu'il y a un site Internet remarquable. Je le dis, parce que le livre est formidable et le site est remarquable. Donc, écoutez, franchement, pourquoi s'en priver ? Oui, vous pouvez. Mais ne vous contentez pas seulement d'applaudir à partir du moteur de recherche Hélène Guinpied. Le site est beau, il est d'une élégance et en plus, surtout, on voit ces dessins d'enfants. Je veux dire, une fois qu'on a lu le livre, le site est un complément visuel. Je trouve ça époustouflant. Enfin, bravo.
C'est surtout elle, parce que c'est vrai qu'avec une matière pareille, c'est facile de faire quelque chose de beau, parce que c'est vraiment... Oui.
Alors, on arrive aux dernières années, alors les dernières minutes de notre émission, puis on arrive en même temps, et ça tombe bien, aux dernières années de la vie de notre artiste Hélène Guinpied. Hélène Guinpied va connaître la période trouble des années 30 avec cette montée des totalitarismes. Elle n'a pas vraiment milité politiquement.
Non.
Elle était à Saint-Mauré, donc finalement quand même un peu à la campagne.
Elle n'a jamais milité, mais elle était elle s'intéressait énormément à la politique. Elle était toujours très au fait de ce qui se passait. Et elle a même elle-même expérimenté la montée de ces totalitarismes, puisqu'ils mettent un coup d'arrêt aux pédagogies nouvelles, notamment dans les années 30. Et il n'y a plus d'écho en fait à sa méthode dans les instances de l'éducation, l'enseignement public à l'époque. Donc elle se rend bien compte que les choses ont changé. La crise de 1929 ruine les ateliers d'art appliqué, les petits ateliers d'art appliqué, puisque il n'a plus de débouchés. Et donc son atelier villageois doit mettre la clé sous la porte aussi dans les années 30. Donc c'est pour elle la fin finalement d'un rêve. Je crois que ça l'a beaucoup, ça l'a énormément peinée et attristée. Donc elle va continuer toujours à peindre et à dessiner plutôt pour elle-même. Mais en ce qui concerne sa méthode de dessin et les ateliers villageois, effectivement, ils sont directement victimes de la situation mondiale politiquement, économiquement.
Hélène Guinpied meurt le 30 septembre 1937. Elle est enterrée au cimetière de Saint-Mauré. La tombe est toujours visible ?
Oui, tout à fait.
Mise en valeur ?
Non, elle n'est pas mise en valeur et elle est même menacée. Et elle est même menacée de. Alors, je ne sais pas à quelle échéance, mais le cimetière de Saint-Mauré, je pense que le sous-sol doit être très. Très.
Oui, mouvant.
Instable,
ou,
oui.
Voilà, oui.
Et la tombe de sa sœur, qui est juste à côté de la sienne, s'est déjà affaissée, mais elle n'est pas du tout mise en valeur à l'heure actuelle.
Alors, Sophie Mouchet, comment se fait-il que sur l'avis de décès d'Hélène Guinpied, il n'ait pas été fait mention qu'elle était artiste, alors que son autre sœur, qui meurt, je crois, une dizaine d'années plus tard, me semble-t-il, là, elle est considérée comme artiste. Oui. J'allais dire Hélène Guinpied, mal aimée.
Alors en fait, son autre sœur, effectivement, a elle aussi peint toute sa vie, mais est restée dans une peinture tout à fait classique, de portraits, de paysages, bon, qui ne présente pas un intérêt exceptionnel. Alors il faut savoir que la vie à l'époque où Hélène Guinpied meurt, son frère Paul est le maire de Saint-Mauré. Et Paul Guinpied, je pense, est aussi en partie responsable, si on peut dire, de l'oubli dans lequel est tombée sa sœur, puisque bien que ça aurait été possible pour lui, il n'a jamais cherché à l'aider, à la soutenir ou à la faire connaître. Or, il faut savoir que Paul Guinpied, à une époque, fut associé au docteur Boucard, qui avait mis au point la formule du lactéol. Et le docteur Boucard était devenu très riche, collectionneur et amateur d'art, a été notamment le mécène de Tamara de Lempicka. Et à ce titre, il aurait très bien pu, Paul Guinpié aurait pu, par l'intermédiaire du docteur Boucard, présenter sa sœur à Tamara de Lempicka, probablement, où il n'a jamais rien fait dans ce sens. Lui faisait-elle de l'ombre ? Toujours est-il que c'est peut-être l'explication.
Le château de Saint-Mauré va quitter la famille Guinpié
En 1995.
Et on sait qu'il y a forcément des dessins, des œuvres qui ont été brûlées, détruites, des photographies, qu'il y a eu une perte terrible avec la transmission de ce château à un autre propriétaire.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que de nombreux documents, photographies, des dessins probablement, étaient encore présents dans le château. Enfin, des dessins sans doute pas, mais des photographies et des documents de famille au moment de sa vente, et ont été détruits par ignorance, puisque le nouveau propriétaire ne savait pas qui avait habité ce château et quelle était son histoire. Et donc, ça a été détruit.
Hélène Guinpié, artiste, peintre, artisane et pédagogue, un parcours absolument passionnant à découvrir, non seulement dans le remarquable ouvrage, ça se lit avec vraiment beaucoup de bonheur, c'est très bien écrit, c'est didactique, c'est d'une clarté, c'est un modèle du genre, une biographie essai, je trouve remarquable. Je dis, ne rougissez pas, il n'y a pas de caméra, c'est pas grave, mais c'est remarquable. Et le site internet
www.hélène-guinpié.fr.
qui est absolument de toute beauté et qui vraiment, en appui de la lecture, nous ouvre à cet univers magnifique d'Hélène Guinpié. On peut applaudir Sophie Mouchet, que je remercie. Vous faites ce que vous voulez.
Alors j'en profite pour donc lancer un appel aux auditeurs qui éventuellement posséderaient des documents, des photos, quoi que ce soit en fait qui ait rapport avec l'artiste, et qu'ils se mettent en relation avec moi, puisque à chaque nouvelle découverte, c'est un peu plus de l'histoire d'Hélène Guinpié qui s'éclaircit et de nouvelles pistes qui s'ouvrent pour comprendre sa vie.
Voilà, nous ferons suivre. Vous appelez la librairie L'Autre Monde à Avallon, ou un petit courriel à librairie.l'autremonde@orange.fr.
Ah oui, et il est alors probable qu'en 2015 ait lieu une exposition, la première rétrospective de l'œuvre d'Hélène Guinpié dans la Nièvre. Puisque c'est son lieu de naissance et qu'il est cohérent de débuter par la Nièvre.
Le rendez-vous est pris. Merci Sophie Mouchet. D'autres rendez-vous avec Evelyne avant le coup de cœur. D'abord, d'autres dates, d'autres rendez-vous à noter dans vos agendas, des prochaines rencontres ici à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue, dans le cadre des apéros de la librairie. C'est convivial, c'est sympathique. Parfois on enregistre des émissions, parfois il n'y en a pas. On ne peut pas toujours être là, mais Evelyne, le programme. T'approches le micro un petit peu, s'il te plaît.
Alors, le 19 juin, on est très très fiers d'accueillir Lola Lafon pour le titre qui a fait beaucoup de bruit à la rentrée littéraire de janvier, La petite communiste qui ne souriait jamais, paru chez Actes Sud. Le lendemain, 18h30 toujours, Jacques Capla, qui s'est beaucoup fait connaître autour de l'agriculture biologique, comment nourrir l'humanité au 21e siècle. Donc son nouvel ouvrage toujours chez Actes Sud. Le 27 juin, Pascal Fautrier pour Les Rouges aux éditions du Seuil, un roman fresque dont j'ai parlé déjà autour de l'histoire de la gauche française révolutionnaire et notamment de la gauche dans Lyon. Et ensuite, dernière date, Isabelle Saporta pour son ouvrage Vino Business, paru aux éditions Albin Michel. Ça se fera en partenariat avec les Caves de la Halle, aux Caves de la Halle, à Avallon, juste derrière la bibliothèque. Autour du commerce du vin, notamment dans le Bordelais, et des malversations. Ce livre, d'ailleurs, est en justice pour diffamation publique contre son auteur Isabelle.
Et l'éditeur aussi.
Tant qu'à faire. Allez, hop, voilà. Donc ça, c'est le programme. Et puis, il y a encore plein d'autres dates sur juillet et août.
Il me donnera le programme, parce que j'ai rien noté.
J'enchaîne sur le coup de cœur, si tu me permets, Yannick, je fais comme chez moi, c'est un peu mon wagon-livre aussi, un peu. Alors, comme d'habitude, j'aime bien défendre les premiers romans, cette fois-ci il s'agit d'un policier. Le titre s'appelle « Une inquiétante disparition » de Dror Michani aux éditions Seuil. Donc, premier roman, comme je les aime, il m'a fait beaucoup penser à Mankell. Mettons, on est en Israël, à Tel Aviv, ça va nous changer des Nordiques un petit peu. Pour autant, on y retrouve cette lenteur, cette analyse de la société qu'on a dans les polars nordiques. Hofer, à 14 ans, il a disparu. Sa mère vient porter plainte au commissariat pour disparition, vient signaler sa disparition. Et l'enquêteur lui dit, c'est pas grave, il a 14 ans, il va rentrer, il a dû sécher les cours, rentrer tranquillement à la maison, tout va bien se passer. Il revient le lendemain, il n'est pas rentré. Et pendant toute l'enquête, notre enquêteur, Avraham, va se sentir coupable. Il n'a pas aidé cette mère, il n'a pas été à la hauteur. Cette culpabilité va gangréner toute l'enquête. En même temps, il soupçonne le voisin, parce qu'il est vraiment bizarre ce voisin, il faut bien admettre. Et en même temps, la famille, elle est pas, il ne donne pas beaucoup d'informations. On va apprendre assez tardivement des révélations sur la famille. Alors, qui, quoi, comment ? Bon, jusqu'à la dernière minute, on est en haleine. Jusqu'à la dernière minute, j'ai rien vu venir, je me suis fait avoir comme une débutante. Pourtant, c'est pas mon premier polar, je peux être sûr. Un roman policier assez virtuose, et... idéal pour l'été, je dirais 300 pages à emmener tranquillement dans son sac de plage. Voilà.
Eh bien, merci à toutes et à tous. Excellente soirée. Je remercie bien sûr Carola Michel et Evelyne Levallois et notre invitée Sophie Mouchet, dont je rappelle le titre de l'ouvrage Hélène Guinpié, 1883-1937, artiste peintre, artisane et pédagogue. Bravo Sophie et merci pour ce délicieux moment passé avec vous. Excellente fin de soirée, rendez-vous mercredi prochain à bord de Wagon Livre. Et puis le public, vous êtes conviés, je crois, à un verre de l'amitié. C'est les apéros de la librairie L'Autre Monde. Bonsoir à toutes et à tous, au revoir. Thank you.
Thank you.